bénisse. On va prier. Seigneur Dieu de grâce, nous te bénissons et te rendons grâce pour cette journée que tu nous donnes encore à vivre, reconnaissant que c'est juste ta grâce qui s'est déployée en notre faveur. Et merci encore au Dieu pour cette occasion qui nous est donnée de nous assembler pour partager ta parole. Nous avons besoin de ton esprit, c'est ta parole et tu en es l'auteur et tu en es le dispensateur, Père éternel. Et c'est pourquoi instruis-nous, enseigne-nous, corrige-nous, redresse-nous, Père éternel, et permets-nous, Père éternel, ô Dieu, de pouvoir, ô Dieu, nous tenir en ta présence, Père, que ta lumière brille en nos cœurs pour chasser toute ténèbre, Père éternel, et faire de nos vies, Père éternel, ô Dieu, un instrument de paix et d'amour. Merci pour tous tes bienfaits, Père, envers chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Bien. On va continuer. La fois passée, on avait vu, en fait, l'accession de Salomon au trône. On a vu combien sa vie a été un peu fort agitée pour son accession au pouvoir. Et on avait vu aussi qu'il a dû faire une purge dans sa famille et autour de lui. Et autre chose, il avait suivi les instructions de son père, David. Il lui avait donné certaines instructions pour pouvoir s'occuper de Joab et de Shimei. Aujourd'hui, on va voir, en fait, toujours la vie de Salomon, mais ici c'est plutôt la première partie, la construction du temple. Et sur cette construction du temple, on va plus parler du vieil homme et du nouvel homme. On va lire dans 1 Chronique 28. De 1 à 8. Donc, 1 Chronique 28, David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs des milliers et les chefs des centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. Le roi David s'éleva sur ses pieds et dit, « Écoutez-moi, frères, écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'Alliance de l'Éternel et pour le marche-pied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, « Tu ne bâtiras pas une maison en mon nom. » Car tu es un homme de sang et tu as versé du sang. Versé du sang, c'est ici, il était un homme de guerre, mais versé du sang ici, c'est vraiment dans l'histoire de Uri et Bathsheba. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fisse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, on avait vu ça la fois passée, les fils que David avait eu, du moins ceux qui étaient reportés, et il avait aussi beaucoup de filles. Il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit, « Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour fils et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. » C'est une condition que Dieu donne ici. j'affirmerai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Nous verrons dans les prochaines fois qu'il n'a pas vraiment, à la fin de sa vie, il n'a pas respecté tout cela. Ça a été la cause de la division d'Israël. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'Assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils auprès, après vous, à perpétuité. Ici, de nouveau, il y a une condition. Mais ici, il parle à tout Israël. Et on verra que, puisque Israël n'a pas obéi, c'était la cause de l'exil, hein, où le temple même a été détruit. Je vais encore voir si on peut continuer. Oui, continuons quand même. C'est long, mais je pense que c'est intéressant. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Le reste, je lirai. On va prier. Merci, Père, de nous ouvrir encore ta parole et de nous envoyer ton esprit pour nous conduire, moi, chacun de nous, Père éternel, pour la compréhension de ceci. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Donc, ici, on voit que David, à la fin de sa vie, et comme on avait vu la fois passée, il n'avait pas directement désigné le roi qui devait le succéder. Il a fallu un peu, je dirais, une aide ou une pression de Nathan le prophète et de Bathsheba pour que David puisse désigner comme roi Salomon. Et surtout qu'il y avait son fils Adonija qui s'était aussi fait proclamer roi. Donc, David, au soir de sa vie, il était âgé et vieux, il va désigner Salomon pour lui succéder conformément à la parole de Dieu. On venait de lire ça. Salomon va donc être couronné avant la mort de David. Salomon a été couronné avant la mort de David. Celui-ci va donc exprimer ses dernières volontés. On avait vu la fois passée quelques-unes de ses dernières volontés, particulièrement les cas de Joab et Shimei. Il lui avait dit que ne laissez pas leurs cheveux blancs aller dans la tombe. Ensuite, donc, comme on a lu, David avait eu cette intention de bâtir une maison à l'Éternel parce qu'il était assez embêté de voir que l'arche habitait encore dans les tentes. Et donc, à cause de ce qu'il avait fait, Dieu va lui dire que non, ce n'est pas toi qui vas bâtir la maison. Et comme on venait de lire, David va s'adresser à deux catégories de personnes. Il va s'adresser à Israël et il va s'adresser à Salomon. Et selon qu'il s'adresse à l'un ou l'autre, les instructions ne sont pas vraiment les mêmes, même si en généralité, il devait honorer ou suivre les commandements de Dieu. Donc, David va effectivement laisser à Salomon de construire la maison. Et ce qui est bien, c'est que David avait tout préparé. Donc, tout ce qui concerne les ustensiles de la maison de Dieu, c'est David qui avait préparé tout ça. Et les plans de la maison, on verra ça, les plans de la maison, c'est Dieu qui lui avait donné de sa propre main. C'est Dieu qui avait écrit. Donc, on voit qu'à Salomon, il va l'instruire à connaître Dieu. On n'a pas tout lu, mais si vous lisez, vous verrez. Il l'instruit de connaître Dieu de ses pères et le servir d'un cœur dévoué. Et s'il l'abandonnait, ben Dieu le rejettera pour toujours. David va en plus donner le plan de la maison à Salomon. Donc le bâtisseur, c'est Salomon. Mais l'architecte, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui va donner le plan de la maison, les matériaux qu'il faut utiliser, comment le service doit être rendu dans la maison de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a donné toutes ces instructions à David, qui les a transmises à Salomon. Donc, ces plans n'étaient pas les fruits des désirs de David, mais c'était la volonté exprimée de Dieu, parce que c'est sa maison. C'est tout à fait normal que si tu veux te construire une maison, tu vas donner toutes les instructions qu'il faut pour que la maison soit à ton goût. Et donc, c'est ce que Dieu a fait. Et Dieu va lui-même écrire les plans de sa maison et il va donner à David, comme je disais. Et on n'a pas tout lu parce qu'il y en a un peu beaucoup. Si vous lisez au-delà du 10, on va voir que David va exhorter beaucoup plus Salomon en lui disant « Fortifie-toi et agis ». Fortifie-toi et agis. Il a répété ça quelques fois. Et il voulait absolument que Salomon sache ce qu'il faut faire. Et on verra que Salomon, pour pouvoir bien agir, il a demandé la sagesse à Dieu. C'est ce qu'il a demandé pour que le travail soit bien fait. Et c'était une lourde responsabilité pour Salomon que de bâtir la maison de l'Éternel. Et pour lui, il n'y avait pas place à l'inaction. Parce que son père lui a dit, fortifie-toi et agis. C'est très très important, fortifie-toi et agis. L'action demande la connaissance de Dieu, la force que Dieu donne et du courage. Ces trois éléments sont importants pour pouvoir agir. Et je crois que c'est Paul qui dit qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité. C'est un esprit de force qu'on a reçu. Et donc, normalement, le chrétien est quelqu'un de très actif, très bouillant, à gagner les âmes, à exhorter, à aider. C'est ça, servir Dieu. Servir Dieu n'est pas nécessairement dans la maison de Dieu. C'est vrai, c'est un service, mais il y a plusieurs façons de servir Dieu. Bien. L'Éternel, donc, va faire aussi une recommandation similaire à Josué. Si vous vous souvenez, on peut lire ça, Josué 1. Josué 1, vous connaissez en fait le passage, mais on va lire à partir du 6. Dieu va dire, fortifie-toi. Et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. On voit ici, Dieu reprend, fortifie-toi et prends courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ici, on sait que Josué avait une mission assez importante. Après la mort de Moïse, c'est lui qui devait faire rentrer le peuple dans la terre promise. Et pour cela, il avait besoin que Dieu lui vienne en aide parce que rentrer dans la terre promise, il y avait des guerres qui l'attendaient. Et quand on est en guerre, ce n'est pas une partie de plaisir, ce n'est pas du tout de tout repos. Et donc, Dieu va fortifier Josué. Et ceci est très, très important. Lorsque Dieu nous conduit, c'est lui qui nous fortifie dans les combats. Parce que certainement, nous rencontrerons des combats et de toutes sortes. De toutes sortes. Donc, Josué avait cette mission-là de faire entrer les pays, les enfants d'Israël dans la terre promise. Et ça, c'est ce que Josué devait faire. Et si on compare par rapport à Salomon, Salomon devait construire la maison de l'Éternel. Donc, d'un côté, faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise, et Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Hein? Donc, c'est très, très important. On a aussi vu avec David qui dit à Salomon, fortifie-toi et agis. On a presque deux tableaux différents, mais qui peuvent être comparés. Donc, on va voir Josué, terre promise, Salomon, maison de l'Éternel. Et pour construire la maison de l'Éternel, Salomon devait suivre fidèlement les plans que son père lui a donnés et comment les services devaient être organisés dans la maison de Dieu. On verra très prochainement que Dieu va agréer l'œuvre parce que le feu va descendre du ciel et les sacrificateurs ne pouvaient plus servir dans la maison de l'Éternel parce que la maison était remplie de fumée. Mais cela montre tout simplement que Salomon a agi fidèlement comme Dieu ou comme son père lui avait dit de faire la maison. C'est très, très important, agir fidèlement selon ce que Dieu te dit. Josué a médité la parole de Dieu, il a agi fidèlement et on voit comment il a conquis la terre promise. C'était lui, je dirais, le messager pour conquérir le territoire. Donc Josué était un homme de guerre. Salomon, lui, était un homme de paix. On voit deux tableaux. L'un, homme de guerre, Josué était un peu comme David, mais nous verrons qu'il y a quand même une différence entre David et Josué. Donc, Josué, homme de guerre, Salomon, homme de paix. Josué, lorsqu'il traverse, il va rencontrer le chef de l'armée de l'Éternel, parce qu'il était amené à combattre. Et cette rencontre-là devait lui donner du courage pour pouvoir combattre, parce qu'il était sûr qu'il n'était pas seul, que Dieu devait combattre avec lui. Et ça, c'est une assurance dans la marche lorsque Dieu est avec nous et qu'il combat à nos côtés. C'est très, très important. Bien. Donc, je disais que Josué était un homme de guerre et Salomon un homme de paix. Et lorsqu'on regarde cela, on peut comprendre comment on a besoin des hommes qui s'en tiennent à la parole de Dieu. On a besoin des hommes qui ont la foi pour conquérir des territoires, pour vaincre les démons, pour vaincre des maladies, parce que c'est la promesse qui a été donnée. On verra ça lorsqu'on comparera, pas aujourd'hui, lorsqu'on comparera Salomon au Seigneur Jésus-Christ. Et dans Timothée, donc 2 Timothée, chapitre 4, de 2 à 5, Paul va exhorter Timothée en disant, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. On voit aussi ici de nouveau des instructions qui sont données à Timothée.
En fait, Paul l'encourage ici. Il dit, c'est vrai, il ne faut pas tenir compte des conditions ou des situations que tu peux rencontrer. Que les situations soient favorables ou non, prêche la parole. Qu'il y ait des combats ou pas, prêche la parole. Mais il ajoute toujours avec douceur et en instruisant. De nouveau ici, on voit des conseils qui sont donnés à ceux qui étaient en charge d'exercer un certain travail. Avec Josué, il devait prendre courage et agir fidèlement. Avec Salomon, c'était pareil. Il devait prendre courage et agir fidèlement selon le plan. Et on voit avec Timothée ici, il devait être sobre en toutes choses et supporter les souffrances. Et ceci demande aussi du courage, ce qui voulait dire que Timothée devait se fortifier dans le Seigneur. Autrement, il était difficile parfois de tenir tête à des rois peut-être ou des dirigeants élevés. Et souvent, nous avons tendance à n'agir que lorsque les situations sont favorables ou lorsque les conditions sont favorables. Et Ecclésiaste 11, 1, 6 dit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. Donne-en une part à sept et même à huit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Ici donc, c'est question d'agir. Hein. J'ai pris ça parce que c'est question d'agir. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui, c'est là où je vais insister, celui qui observe les vents ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Dans ceci, on ressort quelque chose. Dieu n'aime pas la paresse. Il n'aime vraiment pas la paresse. Il nous pousse au contraire à l'action. Il veut qu'on puisse s'aimer, qu'on puisse agir, parce que dans l'inaction, on n'avance pas. Donc Dieu nous pousse à l'action et l'action exige la foi. Si tu n'as pas la foi en ce que tu veux faire, tu ne le feras pas. Si tu n'as pas la foi en ce que tu veux accomplir, tu ne l'accompliras pas. Et on peut voir aussi dans Proverbe 22, 13, toujours pour montrer que Dieu nous pousse à l'action, il dit ici, le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. En fait, ce n'est pas qu'il y a un lion dehors, il ne veut pas aller travailler. C'est ça la vérité. Alors, pour ne pas sortir, il s'est dit qu'il y a un lion dehors. Les paresseux cherchaient des excuses pour ne pas aller travailler. Et le travail, c'est la part de l'homme ici-bas. Je crois que le frère avait lu ça une fois ici. Donc, à ce moment-là, on peut voir les différentes conséquences de la paresse. Dieu est vraiment contre la paresse. Dans tout ce qu'on fait, il ne veut pas non plus que nous faisons l'œuvre avec négligence. Et dans Proverbe 24, au verset 30, Proverbe 24, verset 30, j'ai passé près du champ d'un paresseux. Ça, ce sont les conséquences lorsqu'on n'agit pas ou lorsqu'on est paresseux. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et les murs de pierre étaient écroulés. Ça montre qu'il ne prenait vraiment pas soin de son champ. Oui, parce que comme il y avait les lions dehors, il restait chez lui. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Ceci veut dire que pour tout talent que tu as, pour tout don que tu as, si tu ne les cultives pas, si tu ne travailles pas, eh bien, ce don-là va pourrir, il ne va pas servir. Et il y aura des épines, il y aura tas de choses. Au lieu d'être bénéfique pour la communauté, eh bien, tu ne le seras point. Donc, il est très, très important qu'on prenne ce qu'on fait au sérieux et de travailler sérieusement. Fais ta part en suivant les ordonnances et les commandements de Dieu, et Dieu fera sa part, et tu réussiras dans tout ce que tu fais. Mais souvenons-nous que la Bible dit quelque part, je crois dans Ecclésiaste, la course n'est point aux agiles. Ça veut dire que tu peux être quelqu'un de très rapide, mais il n'est pas nécessairement dit que tu vas gagner la course. Ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Donc, tu peux être agile, tu peux être vaillant, tu peux être sage, tu peux être intelligent, tu peux être savant, mais il y a un facteur ou des éléments qui jouent, c'est les circonstances et les temps. Mais si ce sont les circonstances et les temps qui jouent, comment faire? Mais la seule chose, c'est de se confier à celui qui change les temps et les circonstances. C'est la seule façon pour s'en sortir. Se confier à celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit le roi. Ça, c'est dans Daniel 2, 21. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Et il te guidera pour savoir quand et comment agir. Très, très important. Bien. Donc, Salomon, pour juger le peuple, il a demandé la sagesse. Et puisque Dieu lui a donné la sagesse, le pays a connu son temps de gloire comme jamais auparavant, ni d'ailleurs après. C'était quelque chose d'assez spécifique ou d'assez particulier d'Israël. On parle de Salomon aujourd'hui comme le roi de paix, et il l'était. Il n'a pas fait vraiment beaucoup de guerres, lui. Et on verra que ça a une signification aussi spirituelle. Je disais tout au commencement que David était vieux et ne pouvait pas construire la maison parce qu'il était un homme de guerre et il avait versé le sang. David était vieux. Ça nous amène à quelque chose, ça nous amène au vieil homme. Le vieil homme ne pouvait pas construire la maison de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire ici, car il était un homme de guerre et il a versé le sang. Il fallait que le nouvel homme vienne pour construire la maison de Dieu. La maison de Dieu, je ne parle pas des bâtiments ici, je parle du corps de Christ. Le vieil homme ne peut pas et ne construira jamais la maison de Dieu. Jamais. Jamais. C'est ainsi que David ne pouvait pas construire la maison de Dieu et il devait laisser place à Salomon qui est le nouvel homme créé selon Dieu, selon la promesse de Dieu. Salomon était un homme de paix. Seul un homme de paix selon Dieu peut bâtir la maison de l'Éternel. J'insiste beaucoup, seul un homme de paix selon Dieu qui peut construire la maison de l'Éternel. Même si on l'avait vu, que David avait beaucoup changé après qu'il soit revenu de la fuite d'Absalom. Il ne voulait plus verser du sang. Il a laissé ses concubines qui avaient couché avec Absalom, je crois, oui, Absalom. Il a laissé en vie Joab, il a laissé en vie Shimei pour montrer qu'il avait changé, il était devenu comme un homme de paix. Mais on va voir que juste avant sa mort, il avait encore une dent contre Joab et contre Shimei. Il va instruire à Salomon, leur disant, attention, ne laissez pas Joab et Shimei mourir en paix. Il avait changé, mais il y avait encore des choses qui n'allaient pas. Et c'est comme ça, étant un homme de sang, étant un homme de guerre, il ne pouvait pas construire la maison de Dieu. Bien. Il est très, très important de savoir que Dieu dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». David s'est fait justice, même s'il a dit que, il peut dire « C'est pas moi, c'est mon fils qui a fait ça », mais il avait donné l'instruction. Et Salomon, étant le fils, il a exactement accompli ce qu'il devait faire. Il a suivi le père parce que il a accompli la volonté de son père. On verra à une autre occasion que David représente Dieu et Salomon représente le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ n'a fait que la volonté de son père. Et c'est exactement ce que Salomon a fait. On lui a donné l'instruction de pouvoir ne pas laisser Joab et Shimei aller mourir en paix. Eh bien, il l'a exécuté parfaitement. On verra aussi qu'il a exécuté la maison de l'Éternel parfaitement parce que Dieu va agréer les sacrifices que Salomon va faire. Donc, je disais, le vieil homme ne peut pas bâtir la maison de l'Éternel. Il faut naître de nouveau. Il faut un nouvel homme qui puisse bâtir la maison de l'Éternel. Ça veut dire que le vieil homme doit mourir. Il fallait que David meure pour que la maison de l'Éternel soit bâtie. Il faut que le vieil homme meure pour que le nouvel homme vienne bâtir la maison de Dieu. Le vieil homme qui est critiqueur, adultère, envieux, jaloux, calomniateur, insensible au malheur des autres, vengeur, criminel, il doit mourir. Sans la mort, la nouvelle vie n'est pas possible. Je crois que j'avais parlé déjà ici que la mort est indispensable à la vie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ devait mourir pour que nous ayons la vie. Sans la mort, la vie n'est pas possible. Bien. David, donc, devait mourir pour que l'homme de paix puisse naître. Il fallait que l'homme de guerre meure pour que l'homme de paix puisse bâtir la maison de l'Éternel. Et c'est uniquement cet homme-là qui peut bâtir la maison de l'Éternel. Il est impossible, impossible que les vieils hommes bâtissent une maison qui soit agréable à Dieu. Tu peux mettre du vernis pour dire que tu as changé, mais il y a des épreuves qui viendront dans ta vie qui montreront que tu n'as pas changé. Et il faut vraiment que Dieu puisse changer ta nature, que tu puisses naître de nouveau, être baptisé du Saint-Esprit, pour construire la maison de Dieu. Nous verrons ça, peut-être aujourd'hui encore, que le Seigneur parle, ou l'apôtre Paul parle que nous sommes des pierres vivantes. Et pierre vivante, il va être placé dans l'édifice, dans la maison de Dieu. Chaque pierre a sa place, et chaque pierre a sa fonction. On reviendra peut-être sur ça. Autre chose, on peut aussi, je parlais de Josué tout à l'heure, on peut aussi voir que Moïse ne pouvait pas entrer dans la terre promise. Il ne pouvait pas, parce qu'il était le type du vieil homme. Si vous remarquez bien, Moïse et tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, à l'exception de Josué et Caleb, tous sont morts dans les déserts. Aucun n'est rentré dans la terre promise. Et ceux qui sont rentrés dans la terre promise, ce sont les nouvelles générations, ceux qui sont nés dans les déserts, pour montrer que Seul le nouvel homme rentre dans la terre promise. Le vieil homme ne peut pas rentrer dans la terre promise. Jamais. Et c'est pourquoi la mort du vieil homme est indispensable. S'il n'y a pas cette mort, on aura beau à tourner, on n'arrivera à rien du tout. Il faut absolument la mort du vieil homme. Et Dieu sait comment faire pour tuer les calomniateurs, tuer l'adultère, tuer les jaloux, tuer l'envieux, les calomniateurs, ainsi de suite. Dieu t'amènera à des situations jusqu'à ce que tu t'abandonnes complètement à lui. Donc, Moïse est un type du vieil homme. Et le vieil homme ne peut pas conquérir la terre promise. Jamais, jamais. C'est comme ça, Moïse n'est pas rentré pour aller conquérir la terre promise. Et Josué, si vous remarquez, Josué c'est Jésus sauveur, Jéhovah sauveur. Lui, il pouvait traverser parce que c'est le Seigneur qui est du début à la fin. C'est comme ça, Josué pouvait traverser et aller conquérir la terre promise. Comme le Seigneur Jésus-Christ a conquis tous les démons, a conquis la mort, pour que nous puissions, au travers de lui, être des vainqueurs. Très, très important. Donc, la mort du vieil homme est indispensable. Personne ne peut y échapper s'il veut être en Dieu. Personne ne peut y échapper. Et donc, la nouvelle naissance et les baptêmes du Saint-Esprit sont indispensables pour être la pierre vivante dans la maison de Dieu. Donc, je disais que seuls Josué et Caleb sont rentrés, de ceux qui sont sortis de l'Égypte, sont rentrés dans la terre promise. Josué, comme j'ai dit, c'est le type de Jésus-Christ et Caleb, c'est le type du croyant authentique. Il avait la foi. C'est comme ça qu'il pouvait réclamer sa montagne sans hésitation. Et nous voyons que ceux qui sont rentrés dans la terre promise, ils ont traversé le Jourdain. Et le Jourdain, on verra ça peut-être une autre fois, a une fonction très, très importante dans la marche de tout croyant. On traverse deux eaux. Donc, ils ont traversé la mer Rouge et ils ont traversé le Jourdain. Et les eaux ont une signification très, très importante dans la spiritualité. Si vous vous souvenez, au commencement, il y avait les eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On ne voit nulle part où Dieu dit qu'il a créé les eaux. Nulle part, il n'est dit. Les eaux sont quelque chose d'assez, c'est quelque chose d'assez particulier. On voit qu'il y avait les ténèbres dans l'abîme, il y avait les eaux et il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Et si vous remarquez bien, la terre est sortie des eaux. Je crois que l'apôtre Pierre parle de ça. Donc, la terre, je peux dire, est une progéniture des eaux. Et nous sommes faits de poussière, donc de la terre. Et d'ailleurs, l'homme est constitué, je crois, à 70% d'eau. L'eau a une fonction importante. Et si vous remarquez, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il fut baptisé dans les Jourdains. Il n'est pas parti ailleurs, Jourdain, parce que Jourdain a une signification importante dans la marche, dans la spiritualité. On reviendra sur ça peut-être un autre jour. Donc, il devait traverser le Jourdain. Et le Jourdain te sépare du désert. Et dans le désert, c'est là que le vieil homme est mort. Ça veut dire que le Jourdain t'amène dans une dimension plus élevée. Il t'amène dans une dimension plus élevée. Donc, je parlais des vieilles générations, de ceux qui sont sortis de l'Égypte. Ils sont morts dans les déserts parce que c'était des gens qui murmuraient beaucoup. C'était des gens qui se plaignaient tout le temps. Donc, ils avaient encore la mentalité d'Égypte. Et le vieil homme a toujours la mentalité d'Égypte. Il faut absolument la mort pour que tu aies la mentalité du pays où tu vas t'installer. Et c'est comme ça, ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, ont la mentalité du ciel. C'est très, très différent de celui qui a la mentalité de l'Égypte. On arrivera peut-être à ça plus tard. Donc, il n'y a que ceux qui traversent le Jourdain qui entrent en possession du pays. Le nouvel homme a la mentalité du ciel. Il est béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est très, très important de traverser le Jourdain, mourir à soi et naître en Christ. Je disais que ce n'est pas n'importe qui bâtit la maison de l'Éternel. Ce n'est pas n'importe qui bâtit la maison de l'Éternel. C'est l'homme qui est né de Dieu qui bâtit la maison de l'Éternel. Le vieil homme doit mourir parce que Dieu n'a que faire de ce vieil homme. Comme il est dit, est-ce que le léopard peut-il changer les taches sur sa peau? Il ne le peut, il est ainsi. Et le vieil homme ne peut pas changer, impossible, il ne peut pas. Il doit absolument mourir. S'il ne meurt pas, ça veut dire que tu vis encore ta vie du vieil homme. Ainsi, ce sont les gens baptisés du Saint-Esprit et qui marchent selon l'Esprit qui sont ceux-là que Dieu désigne pour la construction, la maison de l'Éternel. Et on verra que c'est lié au premier-né. Mais ça sera à une autre occasion. Donc, nous avons besoin des hommes remplis de l'Esprit de Dieu, des hommes qui n'ont pas peur de témoigner pour Christ, des hommes qui se tiennent dans la brèche et qui n'ont pas peur d'appeler péché, péché, et bien, bien, dans cette génération du religieusement correct, où on arrondit les angles pour contenter les membres d'assemblée, où le monde et l'Église sont confondus. Le monde et l'Église s'interpénètrent. L'Église flirte avec le monde. Un chanteur chrétien congolais disait: j'ai cherché l'Église et je l'ai trouvée dans le monde. Et j'ai cherché le monde, je l'ai trouvée dans l'Église. La frontière est devenue floue. C'est ce que, je crois, c'est l'Église de Laodicée où il est dit que tu es tiède, ni froid, ni chaud. C'est le mélange Dieu n'aime pas. Il faut que ça soit clair, soit tu es froid, soit tu es chaud. Mais l'entre-deux pose de sérieux problèmes. Je disais, la frontière est devenue floue. Et pour voir cela, la musique est l'un des domaines les plus en vue où le monde a infecté l'Église. C'est ce qu'on voit le plus. C'est ce qu'on voit le plus. Comme un pasteur disait, regardez tous ces clips que des chanteurs se disant chrétiens produisent. Oh là là, enlevez le nom de Jésus et certains clips de Hollywood paraîtront comme des enfants de cœur dans la vulgarité, dans l'obscénité de leurs déhanchements. Tout est infecté. Oh là là. Et c'est ce que les gens aiment regarder. Méditer la parole est pour eux ennuyeux. Oh Dieu, aie pitié de nous. Le temps est fort avancé. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? On a lu tout à l'heure avec l'apôtre Paul, il viendra un temps où les gens, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et nous sommes en ces temps-là. Nous sommes en ces temps-là où les hommes préfèrent des fables à la parole de Dieu. Ils se croient trop saints pour demander pardon. Ils se croient trop saints pour s'humilier. Ils se croient trop saints pour se repentir. Et ils ne veulent vraiment pas s'abaisser. Ils préfèrent qu'on leur dise que Dieu les aime hein, que Dieu vous aime, et ne touchez surtout pas à leurs péchés. Mais l'amour de Dieu et les péchés ne font pas bon ménage. Et ils ne le peuvent. Ils ne le peuvent. Miséricorde, que Dieu ait pitié de nous. Alors, que cherchons-nous? Posons-nous la question. Si nous cherchons Dieu, alors cherchons-le de tout cœur. Nul ne vient à Dieu par ses propres conditions. Très, très important. Nul ne vient à Dieu par ses propres conditions. La véritable repentance a fait défection dans les églises. Nous sommes devenus insensibles au péché, à l'appel de Dieu à la repentance. Et nous nous posons la question, si Dieu est avec nous, où sont tous les prodiges dont nous ont parlé nos pères? Gédéon, c'est ce qu'il disait. Il s'est posé cette question-là, parce qu'il ne pouvait pas comprendre qu'une nation aussi puissante qu'était Israël, que les Philistins continuent à les maltraiter. Lorsqu'ils devaient récolter, les Philistins venaient, ils prenaient tout et ils partaient. Et donc, ils étaient dans une extrême misère. Où en sommes-nous réellement aujourd'hui? Posons-nous la question. Si Dieu est avec nous, où sont tous les prodiges dont nous ont parlé nos pères? Frère Branham a prêché un message là-dessus. Si vous avez le temps, écoutez-le. Arrêtons-nous et considérons les voies de Dieu. Interrogeons-nous et cherchons la face de Dieu. Que le Seigneur nous envoie ce feu qui nous fera sortir des zones de confort dans lesquelles nous croyons en sécurité. La foi n'est pas une supposition. Pas du tout. Notre sécurité, c'est Christ. Souvenons-nous, nous avons une maison à bâtir, la maison de Dieu à bâtir. Nous sommes appelés à être des pierres vivantes. Et chaque pierre doit être taillée loin de la maison de Dieu. C'est ce qu'on lit dans, lorsque vous lisez la construction de la maison de Dieu. Les pierres étaient taillées en dehors du lieu. On les amenait toutes taillées. Ici, lorsqu'on vient, on écoute la parole, mais c'est dans les secrets de nos vies que Dieu traite avec nous. Là où tes pleurs, personne ne les voit, c'est Dieu qui les voit. Tes supplications, personne ne les entend, c'est Dieu qui les voit. Et c'est là où le travail est fait. Lorsque tu viens ici, nous pouvons bénéficier de la paix que Dieu te donne, de la grâce que Dieu te fait. Et nous pouvons apprécier la bonté de Dieu à ton égard. Donc c'est très très important. Ici, nous prenons, Dieu nous donne ce qui convient pour que dans nos maisons, nous puissions travailler, supplier, jusqu'à ce que ces choses qui nous rendent lourds puissent partir. Très, très important. On n'est pas là pour scruter les péchés des autres. Chacun a ses propres péchés, il n'a qu'à traiter ses propres péchés. Si tu peux aider un frère, aide-le, mais de grâce, comment faut-il dire ça? Ne pointez pas ce frère, à ce frère-là, il est comme ça, il est comme ça. Va, prie pour lui et Dieu certainement t'entendra et il aidera. Si tu as écouté, tu vas, tu rumines et fais ce que Dieu te dit de faire. Et alors, tout sera en ordre, c'est la seule chose. Tu as entendu, tu vas méditer, tu vois où Dieu veut travailler avec toi et Dieu te dira certainement ce que tu dois faire. En tout cas, s'il te parle, il te dira ce que tu dois faire. Et si tu fais la chose, alors tu seras réellement béni. C'est vrai, on voit combien la société ou les églises sont devenues, où le monde est vraiment rentré, mais ne jetons pas, comme on dit, ne jetons pas les bébés avec l'eau du bain. Parce qu'il y a quand même un reste qui craint Dieu, qui n'a point plié les genoux devant Baal. Que Dieu puisse susciter encore des hommes et des femmes qui ne se laissent pas entraîner dans les trains du monde, qui dévalent à vive allure vers la perdition. Il y a encore un temps pour arrêter cette folie meurtrière. Et la grâce de Dieu nous appelle. Nous avons besoin de prier pour que Dieu restaure les dons au milieu de nous, que Dieu puisse baptiser les âmes au milieu de nous, que Dieu puisse répandre sa grâce au milieu de nous. On en a besoin. On a besoin de tous ces dons. Ces dons, c'est Dieu qui les fait. Et comme je disais, si on lit dans la Bible, il y a diversité de dons. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de bousculer l'autre pour dire ça c'est mon don ou quoi. Non, tu as suffisamment, il y a suffisamment de dons pour que chacun soit servi, sans qu'il y ait des confrontations, sans qu'il y ait des discussions. On a donc besoin de prier pour que Dieu puisse remplir l'Église de son esprit et qu'il répande des dons au milieu de nous. On parlera peut-être, ou le frère Albert ou frère François parlera des dons, si le temps nous le permet, mais vous pouvez lire dans la Bible, il y a plusieurs dons. On reviendra sur ça peut-être une autre occasion, mais ce n'est pas là le sujet. Il y a plusieurs dons, et comme je disais, les dons, Dieu en a à foison. Ça peut être, on ne s'en rend pas toujours compte, ça peut être les sœurs qui balaient la salle. Hein. Venir s'asseoir dans un lieu propre, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Parfois, c'est le frère juste qui enregistre pour que ceux qui sont au loin écoutent. C'est une grâce. Parce qu'il y a des ministères ou des dons qui sont visibles et d'autres qui sont cachés. Comme dans le corps humain, il y a des organes qui sont visibles et il y a des organes qui sont cachés. Le cœur est caché et pourtant c'est lui qui fait le gros du travail. Il est caché. Et peut-être celui qui fait le gros du travail, ce n'est pas celui qui se tient ici, c'est celui qui est assis peut-être là. Et donc, si Dieu vous donne l'esprit de supplication, ne négligez surtout pas cela. Ne négligez surtout. Peut-être que l'Église tourne grâce à toi, parce que tu es le cœur, du moins pour l'assemblée locale. On a besoin de tous ces dons. Et chaque pierre vivante a une place et une fonction dans l'édifice du corps de Christ. Éloignons-nous du péché et lèvons-nous pour l'œuvre de Dieu. Il y a de la place pour tous, comme je l'ai dit. Que Dieu puisse nous aider et nous assister dans cela. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Comme on a entendu, le vieil homme doit mourir pour que le nouvel homme, l'homme né selon Dieu, puisse prendre la place et construire la maison de Dieu. Et celui qui est né de Dieu, Dieu va le conduire au baptême du Saint-Esprit. Et Dieu certainement répandra ses dons pour le bien de la communauté. Nous en avons besoin. On a tellement de besoins qu'on a besoin de pouvoir supplier Dieu pour que ces choses dont nous ont parlé nos pères, ces choses que nous lisons, soient aussi effectives au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Bien-aimé Père, à qui d'autre veux-tu que nous allions? Tu es notre secours et notre force. Tu connais la vie d'un chacun, où il se tient par rapport à la parole. Ô Seigneur, que tu aies pitié de nous, Père, pour nous aider. Nous avons grandement besoin de toi. Que tu remplisses cette église de ton esprit, que tu baptises, ô Dieu, les âmes de ton esprit, Père. Que tu répandes des dons au milieu de nous, Père. Car nous croyons, Père éternel, que ces choses, ô Dieu, ces promesses, tu les as faites pour nous. Et nous voulons véritablement expérimenter toutes ces choses. Là où, Père éternel, il y a encore des obstacles, que ta grâce, ô Dieu, vienne, Père éternel, et y mette la lumière, Père éternel, pour ôter tout obstacle, Père éternel, et que la grâce de Dieu puisse couler, ô Dieu de miséricorde, librement, Père éternel, ô Dieu, et que cette grâce se répande vers les autres, Père éternel, ô Dieu. Aie pitié de nous, Père. Nous avons besoin de toi. Assiste-nous, Père éternel. Conduis-nous, Père éternel, dans cette marche. Éclaire-nous, Père éternel, là où notre vision est floue. Fortifie-nous là où nous sommes faibles, Père éternel, ô Dieu. Et fasse, Père éternel, ô Dieu, que nous soyons réellement, Père éternel, des hommes dévoués à ta cause. Fortifie-nous, Père éternel, ô Dieu, sur le chemin de la vie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, Père éternel. Merci, Père éternel, ô Dieu, pour ce type que tu nous donnes, Père éternel, pour que nous puissions tirer instruction, Père. Mais, ô Dieu, aide-nous, ô Dieu de miséricorde, et surtout à accomplir la part qui est la nôtre, Père éternel, ô Dieu, car toi, tu accomplis toujours la part qui est la tienne. Sois béni, sois loué, sois remercié, Père. Au nom de Jésus-Christ, je te loue et te bénis. Raccompagne-nous en toute sécurité, Père éternel, ô Dieu, et bénis, Père éternel, chacun de nous. Bénis ceux qui n'ont pas été des nôtres, Père éternel, ô Dieu. Que tout, Père et tous, Père éternel, ô Dieu, soient couverts de ta grâce et de ta paix. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen.